un podcast France Culture.
Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
L'un défonce les portes, l'autre discute. L'un manie l'explosif, l'autre la parole. Ils sont complémentaires, travaillent souvent main dans la main, mais pas avec les mêmes armes. Du coup, ils ne racontent pas la même chose d'un même événement. En l'occurrence, les attentats de Charlie Hebdo et de l'hypercacher, il y a 8 ans, presque jour pour jour, en 2015. Le premier de ces hommes d'élite appartient au RAID, qui a aussi donné l'assaut 5 ans auparavant à Mohamed Merah à Toulouse. Le RAID, ce sont des policiers qui interviennent en milieu urbain dans les affaires de grand banditisme, de crimes organisés et de terrorisme, bref, pas les petits dealers de quartier. Le GIGN, en revanche, ce sont des militaires, des gendarmes supposés travailler dans les zones rurales, mais qui, dans les faits, sont envoyés sur des prises d'otages, des tournements d'avions et en 2015 sur les attentats parisiens, au cours desquels, entre le 7 et le 9 janvier 2015, je le rappelle, Chérif et Saïd Kouachi tuent 12 personnes au journal satirique Charlie Hebdo, puis se retranchent dans une imprimerie et Hamedi Koulibaly assassine une policière et 4 civils à l'épicerie cachère de la porte de Vincennes. L'arme et la parole, voici deux récits signés Pierre Bafoual.
Je m'appelle Marc Verriotte. J'ai 57 ans, j'ai été 5 ans en équipe de France de judo, j'ai 14 sélections internationales, j'étais prof de judo, et c'est des amis qui m'ont dit, dans la police, il y a moyen de faire du sport. Moi, je trouvais ça logique, courir derrière un voyou, le faire tomber, lui passer des menottes, ça semblait être dans mes cordes. Donc c'est ce qui m'a amené à la police au départ. Et ensuite, le RAID, c'est pareil. C'est cette dimension sportive. J'avais pris goût aussi à cette dimension que le RAID a, c'est-à-dire ce plaisir de sentir ses capacités décuplées par le groupe, toute l'ambiance de cohésion, etc. Ensuite, au bout de quelques années de RAID, à force de côtoyer des victimes, eh bien, il y a d'autres valeurs qui te poussent. Des valeurs, tu as envie de lutter contre l'injustice, contre la cruauté, contre les parasites. Voilà, quand tu as une femme violée qui pleure sur ton épaule, quand tu enjambes des morts qui ont des téléphones portables qui vibrent, qui n'auront jamais de réponse, eh bien voilà, ça te crée une espèce de valeur supplémentaire, presque une recherche de Graal. Quand par exemple, après l'hypercacher, les otages nous ont cité le Talmud en nous disant « celui qui sauve une seule vie sauve le monde entier », bon ben c'est un écho chez nous, quoi. Cette prise de risque ultime pour aider les gens, on va la chercher dans ce genre de valeur d'engagement pour l'intérêt collectif. Quand on rentre au RAID, pendant 2-3 ans, on acquiert tous le travail au bouclier, c'est-à-dire les tactiques contre les forcenés, les tactiques contre les terroristes suicidaires, les prises d'otages. Voilà, on apprend toutes ces tactiques-là, avion, bus, métro. Voilà. Et au bout de 2-3 ans, on nous demande de travailler une spécialité propre à l'intervention, c'est-à-dire soit le tir-fusil, soit les fractions. Moi, ce qui me plaisait, c'était la colonne d'assaut, et donc j'ai pris les fractions uniquement pour ça au départ. Parce que les fractions, on ouvre la porte, quel que soit le moyen, et après, on suit le groupe d'intervention, au cas où il y a une deuxième porte à ouvrir, etc. Et moi, j'ai donc fait 20 ans en colonne d'assaut, et donc 16 ans de spécialisation explosif, et c'est une spécialité qui, finalement, tu deviens passionné, parce que tu peux pas faire les choses à moitié. Il faut absolument que la porte s'ouvre, mais la porte, t'as beau lui dire que t'es compétent, si tu loupes, la porte s'ouvre pas. Eh bien, ça peut être un drame, parce que derrière, ça se joue parfois à une seconde. Hein. Une kalachnikov de terroriste, ça tire 600 coups par minute, ça veut dire qu'une seconde, c'est 10 coups de feu. 10 coups de feu, ça peut faire 10 morts. Alors, l'affaire Merah, c'est 3 attentats à 4 jours d'intervalle. Il tue d'abord un militaire qui vend sa moto. 4 jours après, il tire sur 3 militaires qui retirent de l'argent. 2 sont morts et un aujourd'hui tétraplégique. Et 4 jours après, il attaque une école où il tue 3 enfants en bas âge, de 3, 5 et 7 ans, et un père de famille. Nous, on descend dans ce contexte-là. Le tueur n'est pas encore ciblé. L'enquête suit son cours. Mais nous, quand on descend, On descend encore sans but, on a un sac d'affaires personnelles parce qu'on sait qu'on va rester une semaine au moins avant d'être relevé, et puis on descend avec notre sac d'intervention. Voilà. Mais très vite, le tueur au scooter, c'est ainsi qu'il était appelé au départ, est ciblé, et on donne un assaut à 3h15 du matin. Seulement, il dort pas, il regarde la télé, et dès que la porte s'ouvre, on est accueilli par des coups de feu. Donc d'entrée de jeu, il y a l'un de nous qui prend une balle dans le genou, donc il est exfiltré à l'hôpital, et moi je suis blessé à la troisième heure en réajustant un appareil d'ouverture pour à nouveau ouvrir la porte. Je prends une balle en plein milieu du casque. Heureusement, la balle, c'est du 11-43, c'est une balle qui tue bien, mais elle est tellement grosse qu'elle traverse mal les blindages. Donc le casque arrête la balle, ça me fera quand même une hémorragie cérébrale parce que ça va bomber le casque. Mais cette balle, finalement, me sauve la vie parce qu'elle me fait vriller. Et la deuxième balle qui aurait dû m'arriver pleine gorge, en fait, elle me tape l'arrière de l'omoplate. Donc voilà. Alors, moi, j'ai pas été très impacté parce que j'ai été surpris par les balles. J'ai été impacté psychologiquement plus par d'autres balles dans d'autres interventions, parfois même des balles qui m'ont pas touché, des balles qui sont passées tout à côté, ou des balles qui parfois ne sont même pas tirées. Des fois tu forces un passage, mais tu sais que tu peux pas le faire en toute sécurité, donc t'accélères et tu te dis, s'il y a une balle de tirée, elle va me frapper. Eh bien ces balles-là, qui sont parfois même pas tirées, te choquent plus personnellement. Mais moi, mon épouse, après les deux balles, eh bien, il a fallu que je l'appelle un peu plus souvent quand je partais en intervention. Dès que je finissais l'intervention, quelle que soit l'heure, j'étais obligé de la prévenir. Elle a été plus impactée que moi. Moi, je vous dis pas qu'on n'a pas peur, parce que, voilà, que va devenir ma femme si je meurs, que va devenir mes enfants, que tout ça, ce sont des émotions inutiles qu'on apprend à verrouiller. Mais par contre, le cerveau enregistre. C'est-à-dire que quand vous enjambez des morts au Bataclan ou n'importe où, il faut travailler à ce que les images ne vous hantent pas longtemps. Quand j'avais des problèmes, j'en parlais le moins possible à la maison. On m'a parfois récompensé de médailles au service sans que j'en parle à mon épouse, parce que si je dis pourquoi je suis récompensé, j'aurais été obligé de lui raconter des histoires d'intervention et ça l'aurait impacté. Alors après, bon, on arrive en 2015. Le 7 janvier 2015, on remonte de l'entraînement. Et puis, on nous apprend que deux terroristes sont rentrés dans les locaux de Charlie Hebdo et ont tué jusqu'à 12 morts. Donc immédiatement, on fonce dans la région de Reims, là où il y avait l'environnement familial des terroristes, pour essayer d'avoir le plus de renseignements possible. À partir de là, en fait, s'enclenche 48 heures de traque, où on va quasiment pas prendre le temps de manger, de boire et de dormir. Pourquoi ? Parce qu'on réagissait à tous les renseignements. Dès qu'il y avait un indice, on fonçait dessus. On a fouillé des forêts, on a fouillé des villages, on a donné des assauts sur des maisons suspects. Le but du jeu, c'était de faire attention à ce qu'ils ne se cachent pas, pour pas qu'on rentre dans un temps d'enquête qui aurait été forcément très long. Donc profiter un peu de la fébrilité de leur fuite. Et finalement, dans la nuit du 8 au 9... ils sont localisés dans une imprimerie, donc c'est le GIGN qui prend l'affaire, et nous on rentre se coucher. Ensuite, dès le lendemain, sur les coups de 13h, hop, nous ça sonne à nouveau, la prise d'otage de l'hypercachère de Vincennes. On nous apprend qu'il y a des morts dans l'épicerie. Quand on arrivera à l'épicerie, il y aura déjà 4 morts, on sait qu'il y a 26 otages, de la Kalachnikov, de l'explosif. Donc nous, on arrive dans ce contexte-là, aux alentours de 13-14 heures, et on sait que l'intervention va être difficile, parce que on sait qu'elle va se faire de manière conjointe avec le GIGN à 40 km de là, à l'imprimerie, puisqu'on sait que les terroristes sont en contact, et le terroriste avait dit aux otages, si jamais les Kouachi meurent, vous mourrez immédiatement aussi. L'épicerie a deux issues, une porte principale où sera donné l'assaut du raid, et la porte côté périphérique, la porte de la réserve. Il y a un choix tactique qui est fait, c'est d'ouvrir les deux issues, parce que si jamais l'une résiste, on passerait par l'autre. Alors moi, mon équipe, on arrive côté périphérique. Donc la porte côté réserve, qui est censée être la plus renforcée, parce que c'est une cible pour les cambrioleurs, forcément, cette réserve de l'épicerie. Alors, on y va d'abord reconnaître cette porte à quatre opérateurs spécialistes explosifs. Alors, on doit faire très vite parce que il s'agit pas que le terroriste nous repère et se venge sur les otages. Donc, en moins d'une minute, on va jeter un œil sur cette porte de plus près pour voir ses caractéristiques. On revient ensuite aux voitures pour faire un brainstorming. Qui a vu quoi? Qui a une idée de l'outil qui est le plus adapté? Qui a envie de s'y mettre? Qui sent l'affaire, quoi? C'est moi qui suis désigné. Alors je renverse par terre moi tous mes montages explosifs pour choisir le plus adapté, j'enlève de l'explosif à certains endroits, j'en rajoute à d'autres. Ensuite la troisième étape, eh bien on va poser la charge. Et puis cette charge donnera le top intervention, c'est-à-dire que on ouvre la porte que personne pensait qu'on allait réussir à ouvrir. Ça attire le terroriste au fond du magasin, il nous tire dessus et ça permet à mes collègues du RAID à l'entrée principale, eh bien, de monter le volet. Donc ça y est, l'assaut est lancé. On a réussi l'intervention parfaite puisque on a des blessés parmi nous, mais des blessés sans séquelles. On a réussi à sauver les 26 otages sans que l'un d'eux soit blessé. Et par contre, on n'a pas réussi à attraper vivant le terroriste puisque lui aussi nous charge et on est obligé de se défendre et de le neutraliser définitivement. En règle générale, quand on prend de la bouteille, on verse à la formation, cadre ou à la négociation. Alors la négociation, évidemment, toutes les interventions presque commencent par de la négociation parce que ça nous fait gagner du temps, ça nous fait obtenir du renseignement et puis on peut toujours demander la reddition. Mais malheureusement, la reddition, ça fonctionne le plus souvent avec les petites affaires, c'est-à-dire presque en zone de confort, quand c'est un forcené qui a un peu trop bu ou qui a un problème professionnel ou de femme qui divorce. Mais par contre, dans les grosses crises, la négociation n'a jamais fonctionné au sens reddition. Un terroriste, tu peux toujours aller le voir pour lui dire « Monsieur, c'est pas urbain de couper la tête des gens », jamais il vous entendra. Parce que quand on met le doigt dans un engrenage de violence, eh bien, c'est pas avec les mots qu'on peut ramener la paix. On s'en aperçoit même au quotidien, hein, quand votre enfant tape des pieds devant des bonbons au supermarché, on n'arrive pas à le raisonner. Voilà, il faut attendre qu'il se calme pour pouvoir lui parler et avoir un résultat avec les mots. D'ailleurs, on l'a vu dans l'affaire Mera, ça n'a pas fonctionné. L'hypercachère, ça n'a pas fonctionné. Les Kouachi, ça n'a pas fonctionné. Le Bataclan, ça n'a pas fonctionné. Les mots n'ont pas de force à mes yeux. Dans les gros cas de crise extrême, les mots, ce ne sont pas des armes.
Je m'appelle David Corona, je suis issu des forces spéciales, j'ai passé 12 ans au GIGN comme opérationnel à l'intervention dans un premier temps et négociateur de crise également. Alors tout commence en 94, j'ai 15 ans, le 26 décembre se déroule une prise d'otage à Marignane sur le tarmac de l'aéroport de Marseille. Il y a quelque chose d'assez cathartique quand je vois cette action et ces gars qui se lancent à l'assaut de cet avion et je dis à ma mère à l'époque j'ai envie de faire ça. Et elle se marre bien parce que elle a d'autres projets pour moi, notamment médecin ou avocat ou d'autres métiers moins risqués et je vais mettre 15 ans pour rentrer dans cette unité qu'est le GIGN, mais via l'école de gendarmerie, le service militaire, les tests une première fois ratés et les tests une deuxième fois réussis, je vais finir par intégrer cette unité pour mes 30 ans. « ça pouvait arriver que le bip sonne à 2h du matin, qu'en 10 minutes on se retrouve dans une rame de véhicule à rouler à 200 km/h en étant briefé à la radio sur ce qui était en train de se passer, qu'on se retrouve dans une colonne d'assaut derrière un fusil à lunettes prêt en position de sniper à effectuer un tir si c'était nécessaire. Et en fait, rapidement, sur les premières missions, je me suis rendu compte qu'il me manquait quelque chose. Et en devenant négociateur, je me suis aperçu que je gagnais d'une certaine manière sur tous les tableaux, parce que quoi qu'il arrive, j'étais quasiment sûr d'être dans l'action principale. C'est-à-dire que le négociateur est dans l'équipe d'assaut en général, soit on interpelle la personne parce qu'on est dans l'équipe d'intervention, soit l'action principale c'est de négocier et on fait en sorte que la personne se rende. Donc en devenant négociateur, j'ai pu effectuer énormément de missions en étant satisfait de ce que je pouvais y vivre. Et donc ma première année, alors comme en entreprise au GIGN, on a une espèce d'entretien annuel d'évaluation. Donc je me retrouve dans le bureau de mon capitaine la première année et qui me dit bah, écoute David, c'est super, je suis content de toi. Tu as un profil que je n'ai jamais vu encore à l'intervention. T'es instructeur sport de combat et t'es négociateur. Et en général, les négociateurs n'aiment pas trop se battre et les gens de la cellule sport de combat, bah, ils aiment pas trop discuter ou négocier. Et en fait, pendant qu'il est en train de me parler, j'ai un peu comme une séance d'hypnose, j'ai sa voix qui s'éloigne et je me revois dans la cour d'école à l'âge de 8 ans, roux comme je le suis toujours, un peu bouboule avec... un foulard en soie autour du cou parce que j'étais fragile et que ma mère me disait que j'avais froid à mon petit cou et des habits ridicules, une coupe ridicule de cheveux. Et je me vois encore me faire insulter, me faire harceler, me faire cracher dessus et me dire, ben voilà, j'essaye de négocier avec mes camarades qui n'en sont pas tout le temps. Et en même temps, quand ça déborde, je me bats comme un chien par terre dans la cour d'école, sachant que le lendemain, il va falloir retourner à l'école et qu'il va falloir continuer à cohabiter avec mes camarades. Et donc en fait je me dis ben, quand t'étais petit tu négociais et tu te battais, t'en as quand même fait un job 20 ans plus tard sans forcément l'avoir fait de manière consciente. J'ai eu fait à l'intervention et en tant que négociateur des prises d'otages, des enlèvements, des extorsions de fonds, des forcenés, des crises suicidaires, des attaques terroristes et notamment l'attaque de Charlie Hebdo en 2015. Alors pour la petite histoire, tout le GIGN au moment de l'attaque est réuni dans une salle pour effectuer ce qu'on appelle les journées cibles. C'est une espèce de retour d'expérience annuel sur... sur les modes opératoires des nouvelles menaces et l'officier qui est en train de nous exposer la forme des nouvelles menaces est en train de nous dire texto, voilà, il va y avoir des attaques terroristes sur le territoire national, les cibles vont être les militaires et les journalistes en particulier, le but ça va être de créer une tuerie, de partir en cavale, de délivrer un message à la presse et ensuite de se retrancher, de mourir en martyr en essayant de faire le plus de dégâts possible dans les forces de l'ordre. Et pendant qu'il est en train de nous raconter ça, le général Bonneau se lève et sort de la salle. Pendant ce temps-là, on entend des téléphones qui sonnent, des petites alertes un petit peu, genre Le Monde ou BFM sur les téléphones. Le général re-rentre dans la salle et nous dit « Vous vous levez tous, dans 10 minutes, tout le monde est parti de la caserne. » Et donc là, le temps qu'on monte dans les véhicules, on nous explique qu'il y a une attaque à Charlie Hebdo, qu'il y a deux hommes qui ont abattu des journalistes dans Paris et qui partent en cavale. Et donc là, on monte tous dans les véhicules, on sort de la caserne rapidement et on commence à s'organiser et à se déplacer pour commencer à suivre notamment les frères Kouachi. Il y a des choses un peu hallucinantes qui ont eu lieu durant cette traque. J'ai notamment une image qui m'a marqué. On est dans des petits villages du 77. Il y a le véhicule blindé qui nous précède, on est avec nos armes, nos casques et nos gilets pare-balles en train de marcher dans la rue, et on tape aux maisons, et on rentre dans les maisons, on fouille les maisons. Et j'ai l'impression d'être en guerre mondiale où on soupçonne même la population de pouvoir cacher des terroristes. Alors, ce qui n'était pas le cas, mais on se disait que potentiellement les terroristes pouvaient se cacher chez certaines personnes à leur insu, et donc on demandait aux gens de fouiller leurs habitations. C'était un peu étrange comme situation. Jusqu'à ce qu'effectivement, on nous informe qu'ils viennent de rentrer dans une imprimerie. Donc là, les forces de l'ordre arrivent, il y a une première patrouille de gendarmerie qui se présente à la porte. Les frères Kouachi sortent, il y a un échange de coups de feu, et il y en a un des deux qui est blessé à la gorge, et qui rentre à l'intérieur de l'imprimerie. Pendant ce temps-là, se passe quelque chose qu'on n'imaginait pas à l'époque. Il y a un journaliste de BFM qui appelle toutes les lignes de l'imprimerie, qui sature toutes les lignes, pour essayer d'obtenir une interview sauvage des frères Kouachi. Ce qu'il arrive à obtenir, et en faisant ça, il va, sans le savoir, nous voler la seule fenêtre de négociation possible, parce que on était toujours dans le process, tuerie, cavale, retranchement, message à la presse ou au monde. Et donc, une fois que l'interview a été prise, ils n'avaient plus rien à attendre de l'extérieur, et donc, potentiellement, les fenêtres de négociation se refermaient. Et il ne restait plus qu'une option, c'était le fait de sortir et d'essayer de faire le plus de dégâts possible à l'extérieur dans les forces de l'ordre. Par chance, on a réussi à savoir que cette interview avait eu lieu. On a réussi in extremis à faire en sorte qu'elle ne soit pas diffusée pour essayer de garder un levier à la négociation qui nous permettrait de leur agiter ça sous le nez en leur disant « ça sera jamais diffusé » ou autre. Pendant ce temps-là, nouveau coup de théâtre, il y a un monsieur d'une soixantaine d'années qui se présente au PC Sécurité et qui nous dit « j'ai mon fils Lilian qui est employé de l'imprimerie et qui vient d'envoyer un SMS à sa mère, il est caché sous le lavabo de la cuisine ». Donc là, tous nos efforts vont se concentrer à ce moment-là sur le fait de au moins sauver l'otage et de sauver cette vie. Donc on va commencer à échanger par SMS avec Lilian qui est sous ce lavabo, coincé depuis des heures maintenant. Il nous dit, je les entends, ils viennent se laver les mains et boire au-dessus de ma tête, je suis juste dans le placard dessous, j'ai peur, sortez-moi de là quoi. Et donc on lui demande s'il peut, à un moment donné, quand il entend qu'ils sont loin, via une diversion qu'on pourrait faire, sortir de son placard, traverser cette petite cuisine qui doit faire 3 mètres, ouvrir la fenêtre et sauter dans l'atelier d'imprimerie qui est 2,50 m en dessous, et ensuite courir un dernier sprint de 5-6 mètres jusqu'à une porte de secours, parce que on a des équipes d'assaut tout autour, et notamment une équipe d'assaut qui est prête à le recevoir. À ce moment-là, il me répond par SMS, c'est impossible, ça fait des heures que je suis plié en quatre, que j'ai les genoux derrière les oreilles, je ne sais même pas si je peux tenir debout. Donc il est hors de question que j'essaye de sortir de là, je ne me sens pas la force d'arriver à faire ce geste-là. Donc je lui dis, écoute, ne bouge pas, les snipers savent exactement où tu es sur les plans, ils ont leur axe de tir. Donc si à un moment donné tu entends des coups de feu, ou si tu entends une explosion ou autre, surtout ne pars pas en courant, ne bouge pas, parce que tu pourrais prendre une balle perdue, et là, tant qu'on sait où tu es, il y a assez peu de risques que tu sois touché. Donc on arrive et on se met autour de cette imprimerie. Je me retrouve en tête de colonne à commander le trinôme de tête à l'angle du transformateur électrique, à environ 15 mètres de la porte d'entrée de l'imprimerie. Et à la radio, on demande un négociateur. Personne ne répond sur le dispositif. Je finis par baisser le canon de mon arme et faire 30 mètres de retrait pour prendre les négociations en charge. Et là, une discussion s'engage sur « Ok, on va leur laisser un message, qu'est-ce qu'on leur dit ?» Il y avait l'option classique de prise d'otage, de dire « Voilà, je m'appelle David, je suis négociateur au GIGN, je suis là si vous avez besoin de discuter, si vous avez besoin d'eau, de nourriture. » Voilà, un premier message qu'on met en général sur des prises d'otage, qui est une première prise de contact assez neutre en fait pour se présenter, ne pas être intrusif, ne pas être pressurisant et voir dans quel état d'esprit le preneur d'otage ou le terroriste se trouve avant même de commencer à jouer d'influence ou à avoir une stratégie de négociation. La deuxième option, celle pour laquelle je militais un peu plus, c'était que, au vu du fait qu'il y avait déjà eu une interview et qu'il y avait assez peu de chances qu'ils acceptent de nous parler, il fallait vraiment mettre le pied dans la porte et taper fort tout de suite. Et on avait su par les renseignements de sécurité intérieure qu'ils avaient des procédures en cours de pédopornographie. Et donc, en fait, cette espèce de chiffon rouge était un espèce de levier pour leur dire « Écoutez, vous voulez communiquer auprès du monde entier, vous voulez délivrer un message, mais il se peut que, plutôt que de passer pour des héros et des martyrs, vous passiez pour des criminels, en fait. » Et donc, la décision finale est prise de partir sur une négociation classique. Un message va leur être laissé sur la boîte vocale de leur téléphone portable. Et on le sait, via certains dispositifs dont on dispose, qu'ils vont écouter 6 fois le message qui leur a été laissé. Au fur et à mesure qu'ils écoutent le message au fil des heures, la tension monte, l'énervement monte, les mots entremontent, jusqu'à ce que, à l'heure de la prière, quelques dizaines de minutes après avoir écouté ce message une 6e fois, ils vont sortir et tirer dans le tas. Et donc, il y a un échange nourri de coups de feu, jusqu'à ce que les frères Kouachi tombent, et de l'autre côté, on le sait, il y a un assaut coordonné avec le raid sur l'hypercacher. Alors le lendemain, il y a M. Cazeneuve qui passe au GIGN et qui vient féliciter les équipes qui ont été sur l'opération de l'imprimerie et de Charlie Hebdo. Et il demande à parler aux négociateurs en charge des opérations de négociation. Donc je me retrouve face à lui. Il me dit « J'ai une question à vous poser. Tout le monde me dit qu'on ne peut pas négocier avec les terroristes. Qu'en pensez-vous » Je dis « Écoutez, Monsieur le ministre, avec tout le respect que je vous dois, les gens qui vous disent qu'on ne peut pas négocier avec les terroristes et qu'il faut les neutraliser n'y connaissent rien, sont dans une étroitesse de pensée qui fait que ça n'est pas parce qu'on n'y est pas arrivé aujourd'hui que c'est impossible. Pour les pouvoirs publics, pour l'opinion publique et pour les militaires en charge et policiers en charge de ce genre d'opération, c'est peut-être plus simple et plus facile de se dire qu'on ne négocie pas avec ces gens-là parce qu'on va les neutraliser, voire les abattre. Mais ces gens-là veulent mourir en martyr et leur donner ce qu'ils veulent. Ben pour moi, il faudrait arriver à faire en sorte qu'on puisse en capturer ou en faire se rendre, de sorte que les suivants ou les potentiels suivants puissent se dire « Ok, ça finit pas tout le temps comme moi j'ai envie que ça finisse, c'est-à-dire partir au paradis et obtenir ce que j'ai voulu. » Ça permettrait de faire en sorte que ces gens-là répondent de leurs actes et soient responsables de leurs actes devant la justice et qu'ils payent la dette pour ça. Et donc, je garde intimement l'espoir qu'on puisse toujours négocier avec des terroristes. Yonder line of naked trees, yonder burn a thousand winds blue.
C'était GIGN et RAID, l'arme et la parole, un reportage de Pierre Bafoil réalisé par Emmanuel Geoffroy. Merci à Marc et à David, ainsi qu'à Céline Paris, l'attachée de production des Pieds sur Terre, et à Flavie Champion, notre stagiaire.
Elle a provoqué la pire catastrophe démographique de l'histoire de l'humanité, la peste.
L'exemple même d'une maladie qui est liée au développement humain et à la manière dont l'humanité s'est développée à une certaine époque.
Comme il l'a fait pour le choléra, le Covid, la variole ou le sida, le médecin Renaud Piarou, chef de service à la Pitié-Salpêtrière, va mener l'enquête pour vous. Mécanique des épidémies, 7e saison La Peste, un podcast de Renaud Piarou et Anne de Pelchin sur franceculture.fr et l'appli Radio France.